This is Radio Free Europe.
9 minutos en Colombia.
حاليا راديو روزانا في باريس.
مابونا هادو جلوبو.
From CNN Radio 7.
راديو داشا.
O Brasil quer seguir o
jogo. Turkey, Fotora,
Slava, Россия.
Rebonsoir et bienvenue. Un jour dans le monde aujourd'hui au Yémen. Le pays est en guerre civile, situation très complexe que nous expliquera Éric Valmire dans Partout ailleurs. Reportage au Sri Lanka sur les conséquences des 26 ans de guerre entre l'armée et la rébellion des tigres tamouls. La fabrique du Nouveau Monde avec un portrait de l'artiste Lee Chevalier signé Dominique André. 18h55, c'est l'édito d'Arnaud Le Parmentier sur l'Iran et la question nucléaire. Mais tout de suite, Syrie, Irak, Liban.
France Inter, un jour dans le monde, Nicolas Demorand.
C'était le 26 février dernier, des images sidérantes diffusées par l'organisation État islamique. Tournée au musée de Mossoul, elle montrait des hommes démolir à la masse et au marteau-piqueur des statues assyriennes et parthes. Le quotidien Le Monde, qui a consacré une double page à cartographier les pillages et destructions à l'œuvre dans l'ancienne Mésopotamie, décrit les épisodes qui ont suivi celui de Mossoul. Je cite « Attaque au bulldozer de Nimroud, capitale assyrienne, le 5 mars. Puis d'Atra, monumentale cité parthe, le 7 mars. Khorsabad, au nord de Mossoul, est pillée le 8 mars, comme Ninive, la dernière capitale assyrienne. » Fin de citation. Mais il faudrait ajouter à ces destructions les trafics d'œuvres d'art ou d'archéologie que connaît la région et dont on parle ce soir avec Nada Al-Hassan. Bonsoir.
Bonsoir.
Et merci d'être au micro de France Inter. Vous êtes chef de l'unité des États arabes à l'UNESCO. Je citais à l'instant quelques exemples de destruction menée par l'organisation État islamique. Destruction, est-ce que le mot est trop fort ? Que sait-on exactement aujourd'hui de l'état de ces lieux de mémoire après les attaques au bulldozer ?
Oui, en effet, c'est le ministère des Antiquités et du Tourisme irakien qui avait crié devant le monde entier, alarmé le monde entier sur les destructions des sites de Nimroud, de Khorsabad et de Atra. Et ils ont fait appel à l'aide en disant au secours les bulldozers, les camions, les explosions. Venez nous aider. En effet, il y a eu des destructions, mais grâce à des images satellitaires que nous avons eues par notre agence sœur des Nations Unies, UNOSAT, des images du 10 mars et du 7 mars dernier, on a vu que les sites de Atra et de Nimroud avaient été endommagés, mais pas à l'échelle qui a été mentionné.
D'accord.
Donc, heureusement.
Donc, les images satellites que vous avez, dont vous disposez, montrent qu'il y a bien eu, évidemment, il s'est bien passé quelque chose, voilà. Mais ça n'a pas été rasé.
Ce n'est pas une échelle dévastatrice. On peut parler de dommages, mais on ne peut pas évaluer les dégâts à une grande échelle.
Face à cette situation, ce n'est pas la première fois qu'il y a des problèmes avec des destructions de sites archéologiques dans la région. On va y revenir, mais face à la situation nouvelle de 2015, comment l'UNESCO travaille et recueille les informations ?
Donc, malheureusement, toute la région du Moyen-Orient est en guerre actuellement et nous avons des méthodes de travail qui diffèrent d'un pays à l'autre. Dans le cas de l'Irak, il y a une vraie terreur dans le pays, dans les zones qui sont contrôlées par ces groupes armés extrémistes. Et les gens qui essayent de nous communiquer des informations ou qui en communiquent à Bagdad sont très souvent tués, emprisonnés, persécutés. C'était le cas du directeur du musée de Mossoul qui avait été emprisonné pour avoir communiqué avec Bagdad au tout début de l'occupation de Mossoul. Donc, c'est très difficile d'avoir des informations et même le gouvernement central a du mal à en avoir. Donc, c'est vraiment toujours par oui-dire. C'est pour ça qu'on fait recours aux images satellitaires. Par contre, pour un pays comme la Syrie, où il y a plus d'informations qui passent, où Internet marche, on a des informations par la société civile dans les zones de conflit, on a des ONG qui travaillent, on a la direction des antiquités de Syrie qui fait un mapping, qui travaille donc sur...
cartographie précisément.
Des dommages dans les zones contrôlées par le gouvernement. Donc, il y a beaucoup plus d'informations qui filtre.
Et est-ce que pour l'Irak, il y a eu, on le sait, une progression fulgurante de l'organisation État islamique. Est-ce que, malgré cette progression et cette rapidité, des œuvres précieuses ont pu être rapatriées dans d'autres espaces préservés du pays ?
Non, malheureusement pas. Cette avancée a été très rapide et apparemment elle a pris de court les autorités irakiennes. Il y a eu, si vous vous souvenez, au début, l'explosion spectaculaire de la mosquée de Younas, vraiment choquante, qui a choqué tout le monde. Et on a vu les images également très choquantes de destruction volontaire et d'acharnement contre les sculptures du musée de Mossoul. Et puis, les informations ont commencé à se succéder site après site, créant cette crainte et cette boule de neige. Mais on peut agir. Alors, c'est très difficile.
On peut constater a posteriori, on peut avoir des cartographies satellites, on peut essayer de recueillir de l'information pour voir ce qui a été détruit ou non, là où des forces ont pu passer ou pas. Mais est-ce qu'on peut agir préventivement ?
Alors, la communauté internationale peut agir de plusieurs manières. D'ailleurs, la directrice générale de l'UNESCO, Irina Bokova, a fait appel au Conseil de sécurité quand il y a eu ces destructions en disant prenez acte et comme l'UNESCO l'a dit à plusieurs reprises, considérez bien la destruction de la culture comme un élément central de ce conflit. C'est vraiment un élément qui a un enjeu sécuritaire pour le moment et il faut qu'on agisse au niveau du Conseil de sécurité. Quand on dit Conseil de sécurité, on dit guerre et paix. D'ailleurs, il y a une discussion maintenant au niveau des États sur le fait de faire, oui ou non, des frappes préventives quand on voit des troupes avancer vers un site archéologique donné. Donc, ça se place sur un ordre militaire, sur un plan militaire. L'UNESCO n'intervient pas militairement, mais alerte les pays qui sont partis d'un conflit donné, qui opèrent des frappes aériennes, les alerte afin qu'ils ne bombardent pas les sites archéologiques, qu'ils évitent de militariser les sites archéologiques. Donc, on peut faire un travail de prévention, mais sur le terrain, faire la guerre pour protéger un site, ça ne s'est encore jamais fait. Mais on parle maintenant beaucoup de ça et peut-être que ça va se faire.
Alors, il y a la mise en scène dont je parlais à propos du musée de Mossoul, mais j'imagine qu'il y a Nada Al-Hassan, d'autres formes d'atteinte au patrimoine, le vol, le pillage, le trafic, qui sont par nature beaucoup plus discrets. Mais est-ce qu'on a atteint là aussi quelque chose sur une échelle sans commune mesure fin 2014, début 2015 ?
Alors oui, il y a eu énormément de fouilles illégales sur beaucoup de sites archéologiques, surtout en Syrie par exemple. Mais vous savez, les sites archéologiques ne sont pas des endroits que vous fouillez et vous trouvez des trésors facilement. Ça requiert énormément de travail et vous ne tombez pas toujours sur un trésor, c'est rare. Donc ce n'est pas une activité si porteuse. Mais il y a eu un travail de fait par les Nations Unies pour faire le lien entre terrorisme, financement du terrorisme et fouilles illégales. Et ce lien a été établi. L'UNESCO avec Interpol et l'Organisation internationale des douanes a fait son travail pour en effet montrer qu'il y a des fouilles illégales systématiques et un trafic illicite prouvé dans cette région pour financer la guerre.
Nada Al-Hassan, je vous propose d'écouter ce reportage d'Omar Ouaman, qui est le correspondant de France Inter au Liban. Ce reportage a été diffusé une première fois en décembre dernier. C'était dans le 7-9 de Patrick Cohen sur France Inter. Le Liban, c'est une plaque tournante du trafic d'antiquités venu de Syrie. Elle transite par la frontière libano-syrienne où la contrebande permet aussi, vous allez l'entendre, de financer la guerre contre le régime de Bachar al-Assad.
Ces antiquités transitent notamment par la ville libanaise de Majdal-Anjar, une petite agglomération sunnite située dans la vallée de la Beka et adossée à la frontière syrienne. Elle est sur la route de Damas, ce qui en fait un des principaux axes de passage de la contrebande d'antiquités. Des pièces d'une valeur parfois inestimable sont vendues pour quelques centaines de dollars ou échangées contre des armes et des munitions au profit de la rébellion syrienne. Bassem, 24 ans, est un contrebandier libanais. Il se rend toutes les semaines en Syrie de l'autre côté de la montagne et revient chargé d'antiquités.
Je les fais venir à cheval. Je transporte des armes et en échange, je ramène des antiquités. J'ai une équipe de 10 hommes qui travaillent avec moi. Nous nous rendons sur la frontière. Nous entrons en Syrie et là, nous rencontrons des Syriens avec qui nous faisons affaire et nous revenons au Liban. La dernière fois, on a reçu deux pièces qui ont été revendues par la suite près $1,5 million, deux statues très anciennes et en or. Avec l'hiver qui arrive, ce sera encore plus facile, car avec le froid et la neige, les soldats, eux, restent au chaud à l'intérieur de leur poste frontière et nous passerons.
Bassem, à l'image de l'ensemble de la population de Majdal Anjar, soutient la révolution syrienne. Ici, les rebelles se mêlent à la cohorte de réfugiés. Hadi, 30 ans, est membre de l'armée syrienne libre, groupe modéré soutenu par les pays occidentaux. Originaire de la Routa, dans la banlieue est de Damas, il est venu échanger des antiquités contre des armes.
Je suis venu de Syrie hier pour acheter des munitions, des roquettes, des kalachnikovs et des obus, des choses comme ça. Et en échange, j'ai apporté des statues, des pièces, des antiquités en or qui viennent principalement de Tedmour, de Palmyre, de Deir ez-Zor, de Maloula. Je sais que je suis en train de vendre l'héritage de mon pays, mais nous n'avons pas le choix. Nous combattons pour notre liberté. Le régime de Bachar a le soutien de la Russie, du Hezbollah, des miliciens chiites d'Iran, d'Irak, alors que nous, nous sommes seuls et nous manquons d'armes. Je suis vraiment triste de faire ça. Mais si on ne le fait pas, comment voulez-vous que notre révolution réussisse ?
Alors, Hadi avouera que ses armes iront également entre les mains du front al-Nosra, la branche syrienne d'Al-Qaïda, car en Syrie, tous les groupes rebelles se sont lancés dans ce trafic juteux d'antiquités. Ils sont revendus et passent de main en main avant d'être écoulés au marché noir dans les pays du Golfe, en Europe ou encore aux États-Unis. Wissam est un Libanais, il vient d'acheter pour quelques centaines de dollars à peine plusieurs antiquités qu'il a placées dans une boîte en verre. Il a fait des recherches pour connaître le prix exact de chaque pièce.
Là, ce sont des boucles d'oreilles en or d'une valeur de $6,000. Ça, c'est une petite statue en ivoire, elle coûte $2,000. Et là, ce sont des pièces en or dont le prix est de $500 chacune. Ce sont des objets très très rares qui remontent à plusieurs milliers d'années, à l'époque byzantine, phénicienne, romaine ou encore à la Grèce antique. Moi, je vais les revendre à quelqu'un qui les fera sortir du pays. Elles seront revendues ailleurs. C'est comme ça que je gagne ma vie.
Berceau de nombreuses civilisations romaines, grecques, phéniciennes ou encore byzantines, le sous-sol syrien fait depuis le début de la guerre civile l'objet d'un pillage organisé et systématique. Johan Fachar Bajali, archéologue libanaise spécialisée dans le patrimoine en zone de conflit.
On sait, à partir des photos satellitaires qui ont été diffusées l'année passée pour le site d'Apame, qui est l'une des plus grandes villes romaines au monde, avec des mosaïques extraordinaires, le site ressemble à la surface de la Lune. Les trous creusés par les pilleurs dépassent 3 mètres de largeur. Et les dernières photos diffusées sur les sites de Mari et de Doura Oropos montrent un pillage qui est encore pire, c'est qu'on a utilisé des bulldozers sur ces sites. Là, la Syrie est déterrée, elle perd son histoire, elle perd les civilisations qui ont vécu, elle perd son identité, elle perd son patrimoine. Une fois la guerre terminée, la Syrie ne sera plus jamais la Syrie.
Et les sommes d'argent générées par ce trafic d'antiquités, le troisième plus important après la drogue et les armes, sont énormes, entre 6 et 15 milliards d'euros par an, selon certains experts.
Voilà cet édifiant reportage d'Omar Waman, notre correspondant au Liban, qui avait, je le rappelle, déjà été diffusé dans le 7-9 de France Inter en décembre dernier. Nada Al-Hassan, comment vous recevez, j'allais dire, la banalité absolue de ce trafic ? C'est l'hiver, il fait froid, les militaires sont au chaud dans leurs casernes, on peut passer plus facilement. Voilà les boucles d'oreilles, les petites statues, c'est semble être d'une normalité terrifiante.
En effet, c'est une normalité glaçante et c'est la normalité de la guerre malheureusement. Le business de la guerre a toujours existé et ça c'est une nouveauté que les objets culturels fassent partie du business de la guerre. C'est un très beau reportage, très choquant, mais il faut distinguer entre les petits pillages et le crime organisé. L'archéologue libanaise qui a évoqué les fouilles illégales et très très grandes à Doura Oropos, Apame et Mari, surtout Apame, parle de crime organisé ici parce qu'on a vraiment ratissé le site, on savait très bien quoi voler. Mais il y a des, quand même, la direction des antiquités du Liban a stoppé énormément d'objets qui avaient été pillés du site d'Apame par exemple. Et il y a un grand travail pour stopper ce trafic. Il faut aussi mentionner qu'une résolution de l'ONU vient d'être adoptée, la résolution 2199, qui impose un moratoire sur la vente d'objets culturels syriens dans le monde entier. entier. Ce même moratoire existe pour l'Irak depuis 2003. C'est ça qui limite la vente sur le marché de manière ouverte.
Parce qu'on voit bien qu'il y a deux débouchés à ce marché. Il y a acheter des armes, comme le dit l'un des intervenants du reportage d'Omar Waman. Nous avons malheureusement besoin d'armes pour notre combat, même si nous savons que nous dilapidons notre patrimoine. Mais on imagine aussi qu'il doit y avoir un certain nombre de collectionneurs dans le monde pour lesquels ce sont là autant d'aubaines d'enrichir leur collection, leur propre collection. Je me trompe ?
Non, non, c'est tout à fait vrai. Et en effet, l'UNESCO travaille sur la sensibilisation à ce sujet en disant « ce n'est pas du tout... » in ou à la mode d'avoir un objet du 3e siècle avant Jésus-Christ dans son salon, c'est un crime. C'est un crime reconnu par la loi internationale, le droit international comme étant un crime. Et ça, et les gens doivent le savoir. Il faut qu'ils sachent que quand ils achètent une œuvre qu'elle coûte 500 euros ou 50 000 euros sur le marché noir, qu'ils commettent un crime. Et Interpol sera à leur trousse un jour ou l'autre et c'est dans leur base de données. Donc voilà.
Dernière question, le quotidien Le Monde que je citais tout à l'heure indique que Genève et Londres seraient deux plaques tournantes aujourd'hui où s'échangent, se recyclent sous le manteau ces œuvres d'art pillées. Est-ce que vous pouvez le confirmer ?
Écoutez, il y a beaucoup de plaques tournantes maintenant. Il y a aussi un marché dans le Golfe, il y a un marché en Asie, la Chine est un grand marché, la Russie est devenue un marché. Les marchés se sont multipliés et en effet, les pays où il y a beaucoup plus de passages sont des pays propices au trafic illicite. L'Europe a toujours été un marché pour les antiquités, mais il y a des conventions internationales qui stoppent ça. Il y a une grande coopération des gouvernements européens actuellement, au niveau du Conseil de l'Europe même, pour ne pas pour empêcher que se vendent sur leur territoire les objets culturels en provenance d'Irak et de Syrie.
Merci en tout cas, Nadda Al-Hassan. Je rappelle que vous êtes la chef de l'unité des États arabes à l'UNESCO. Merci donc pour vos informations, certaines plus rassurantes qu'on aurait pu l'imaginer en démarrant notre entretien. À suivre, il est 18h33 sur France Inter, un reportage au Sri Lanka, pays où l'on part déjà, avec Ranji Mali. C'est du reggae sri lankais. Écoutez ça, un jour dans le monde. Voilà donc pour ce reggae sri lankais, Nidhi Gula de Ranji Mali.
Nicolas Demorand, un jour dans le monde. sur France Inter.
Et reportage donc au Sri Lanka où une page est en train de se tourner depuis l'élection d'un nouveau président à la tête de cette république asiatique le 8 janvier dernier. Maithripala Sirisena a promis de relancer le processus de réconciliation pour faire la lumière sur les crimes de guerre qui ont marqué la fin de 26 ans de conflit entre l'armée et les rébellions des Tigres tamouls. C'était en 2009. Un nouveau panel d'enquête gouvernementale devrait être mise en place dans les semaines qui viennent. Selon l'ONU, 40 000 civils seraient morts dans les bombardements aveugles de l'armée. En attendant, la minorité tamoule espère une autre action urgente et concrète pour recommencer à vivre. Ça passe notamment par la libération de leurs terres toujours occupées par l'armée. Plus de 100 000 tamoules vivent ainsi dans des camps de réfugiés dans le nord du Sri Lanka depuis plus de 20 ans. Reportage Sébastien Farsi.
Ici, ce sont les toilettes communes pour les 200 familles du camp. Et là, notre maison.
Ah, il fait chaud, ouais. C'est sûr qu'avec de la tôle pour seul toit, il fait chaud l'été. Trois petites pièces pour sept. Il faut dormir où il y a de la place.
Sylvia a une quarantaine d'années et un sourire désabusé. Il y a 25 ans, elle et sa famille ont dû fuir leur grande maison à cause des combats qui ravageaient la région de Jaffna et elle n'a jamais pu y retourner. Depuis, elle a donc réinventé sa vie. Elle tient une épicerie dans le camp de réfugiés de Sapattipalai où elle habite, située à la sortie de cette grande ville du nord du Sri Lanka. Mais le mois dernier, le nouveau président Maithripala Sirisena s'est déclaré favorable à leur cause et elle reprend donc espoir de retrouver une vie normale.
Il y a 15 jours, nous avons fait notre demande au chef du gouvernement de la province du Nord pour récupérer notre terrain. Il se trouve à 12 km d'ici. Nous pensons que le nouveau président nous autorisera à y retourner.
La maison elle a été détruite.
Oui, toutes les maisons étaient rasées par un bulldozer.
Les terres de Sylvia, comme celles de milliers d'autres Tamouls, sont occupées par l'armée. Celle-ci est déployée sur plus de 24 km² dans cette seule province du Nord. Près de 6 ans après la fin de la guerre, les armes se sont tues, mais l'armée, elle, garde ses installations pour des raisons parfois autant économiques que militaires. Avec Paramesh, un journaliste local, nous décidons de nous rendre dans la base navale de Kankesanthurai, située à une vingtaine de kilomètres au nord de Jaffna et comprise dans une zone de haute sécurité. Le long de la route qui nous y mène, les marques de la guerre sont encore bien visibles.
La zone est complètement vide, on a l'impression d'un no man's land, déserté sur plusieurs kilomètres, les maisons sont vides. Et là, il y a un checkpoint des militaires pour entrer dans la zone de haute sécurité.
Ils nous observent. Gardez votre enregistreur dans le sac.
Ok.
Ceci, c'est la grande cimenterie. Vous pouvez voir les grosses machines.
C'est sous le contrôle militaire, donc on ne peut plus l'utiliser, quoi.
Je vivais ici avant. Ma maison est à 2 km. J'allais voir les films tamouls à vélo. Il y avait 2 salles de cinéma là-bas. Mais ma maison a été détruite par l'armée. Et là, vous avez la mer. Et le port là-bas. On peut apercevoir l'Inde de l'autre côté. Avant, les rebelles faisaient passer des armes par ici. Mais maintenant, vous avez cet hôtel. Il s'appelle Tal Sevana. Tal veut dire palmier.
Tal Sevana Holiday Resort. Très belle plage. Avec des transats et des parasols sur du sable blanc. Nous arrivons dans le resort de l'armée.
Selon l'association Sri Lanka Campaign for Peace and Justice, l'armée détient et gère 17 grands hôtels comme celui-ci dans le pays. Le nouveau gouvernement vient de rendre un peu moins de 2 km² de terre à 31 propriétaires et il a promis de continuer ce processus. Le député Mavai Senatiraja, lui, s'impatiente. Ce secrétaire général du parti de l'Alliance nationale tamoule, qui soutient le gouvernement, essaye de faire accélérer ce retrait.
Près de 150 000 militaires se trouvent dans la région du Nord. Et le problème, c'est qu'ils cultivent nos terres fertiles et vendent cette production sur nos marchés. Ils ont aussi chassé nos pêcheurs et ramené et protégé des Singhalais pour pêcher dans les zones tamoules. Nous avons confiance dans le gouvernement, mais il a demandé du temps, car il ne veut pas donner l'impression qu'il retire toute la présence militaire. Sinon, eh bien, les extrémistes vont l'accuser de mettre en péril la sécurité du pays.
En tout, 100 000 personnes vivent ainsi déplacées dans le nord du Sri Lanka et près du double dans le sud de l'Inde voisine.
Reportage signé Sébastien Farsi, dans le nord donc du Sri Lanka.
Thanks so much for that report.
France Inter, 18h40, partout ailleurs. Bonsoir Éric Valmire.
Bonsoir Nicolas.
Alors on va essayer de comprendre et d'expliquer ce qui se passe au Yémen, pays en guerre civile et en voie de dislocation.
La nuit dernière, des bombardements aériens ont tué 13 civils dans la capitale Sanaa, des frappes aériennes ordonnées par l'Arabie Saoudite. Le Yémen embourbé dans une situation chaotique, toutes les ONG alertent la communauté internationale aujourd'hui sur le sort de la population civile, comme toujours prise entre deux feux. Pour comprendre la situation, Nicolas, on est obligé de regarder dans le rétro. On ne va pas remonter jusqu'au XIIe siècle, je vous sens tressaillir, mais simplement 25 ans en arrière, au lendemain de la chute du mur de Berlin. Avant, il existait deux Yémen, celui pro-soviétique et celui proche des Saoudiens et des Américains. En 1990, réunification sous le régime d'Ali Abdallah Saleh. La famille Saleh va d'ailleurs occuper tous les rouages du pouvoir. Très vite, une résistance s'organise dans les villages chiites, mais la motivation est plus politique que religieuse. Les Houssis, franges du chiisme, prennent les armes et jusqu'en 2011, 6 conflits armés d'envergure sont recensés. En 2011, les révolutions arabes, souvenez-vous, la révolution yéménite, niveau de vie très pauvre, est très vite réprimée. Les yéménites sont dans la rue pour protester contre la misère. Les Houthis profitent de ces manifestations, contre-attaquent et mettent en avant les revendications sociales portées par la population. Saleh démissionne donc en novembre 2011, la position étant devenue intenable. Un nouveau président est élu en 2012, Abdrabo Mansour Hadi. Mais les Houthis ne voient pas la différence avec l'ancien régime, monopole du pouvoir et corruption toujours en exercice. Le risque de guerre civile s'amplifie. On arrive à l'été dernier, 2014, violents affrontements entre les chiites et les combattants sunnites, épaulés par l'armée yéménite. 38 morts. L'avancée des rebelles est fulgurante. Casernes occupées, radio et télévision publiques investies. Un cessez-le-feu signé sous l'égide des Nations Unies. Le Premier ministre démissionne. Les Houthis chiites réclament l'application des accords du dialogue national. C'était un processus de concertation qui devait aboutir à une organisation fédérale du pays avec la création de 6 provinces. Et surtout, les Houthis, donc toujours les chiites, hein, puisque les Houthis, c'est, je le rappelle, une minorité chiite, accusent le gouvernement Hadi de proximité avec les réseaux terroristes Al-Qaïda.
Le gouvernement yéménite est clairement complice d'Al-Qaïda. Il déploie toute sa puissance pour aider Al-Qaïda. Il tire le pays vers le chaos.
En dépit d'un accord qui n'aura tenu que quelques semaines, les affrontements reprennent de plus belle. Sanaa est aux mains des rebelles houthistes. Le front se déplace vers le sud, la ville d'Aden, où se réfugie le président Hadi. Mais mercredi dernier, les Houthis obtiennent un succès sur les forces loyalistes et prennent la base aérienne d'Al-Anad. L'aéroport d'Aden est le théâtre de combats très violents et le président Hadi s'enfuit. Personne ne sait où il se trouve. Son ministre des Affaires étrangères, Riyad Hassin.
Ils essaient d'attaquer le président. Leurs avions tentent de tirer des roquettes sur lui. Ils ont aussi voulu pénétrer à l'intérieur de plusieurs bâtiments officiels autour d'Aden. Dieu merci, pour le moment, la ville tient toujours et le président s'y trouve toujours. Il essaie de son mieux de résister.
Ce gouvernement demande donc le soutien de la communauté internationale, arguant que les Houthis ne peuvent être qualifiés de milices ou de rebelles au vu de l'armement lourd qu'ils déploient sur le terrain. L'ombre de l'Iran en sous-main et de l'ancien président Saleh plane. Le gouvernement yéménite reçoit d'ailleurs avant-hier un soutien de poids en la personne de Tawalog Karman, prix Nobel de la paix en 2011.
Nous sommes confrontés à une scène tragique. C'est un coup d'État orchestré par Ali Abdallah Saleh. Il manipule les milices armées houthis soutenues par l'Iran. L'Iran essaye de créer des divisions et d'étendre son pouvoir dans la région. Il veut coloniser le Yémen. C'est ce qu'il se passe en ce moment.
Alors une coalition d'une dizaine de pays voit le jour ces dernières heures. Derrière les Saoudiens, l'Égypte, le Soudan, le Koweït, le Maroc, les Émirats Arabes Unis, le Qatar, le Pakistan et le soutien logistique des États-Unis. Bombardement intensif cette nuit sur les positions houthistes. Une centaine d'avions de guerre déployés, 150 000 soldats saoudiens, 4 navires de la marine égyptienne ont passé le canal de Suez tout à l'heure. La nuit dernière, 13 civils tués. La rivalité entre l'Arabie Saoudite sunnite et l'Iran chiite n'est pas un fait nouveau dans la région. Influence notoire de Téhéran en Irak, au Liban, en Syrie et désormais au Yémen, l'Arabie Saoudite ne peut voir l'Iran la défier à ses frontières. L'Iran, cet après-midi, évidemment, a condamné l'intervention militaire, une démarche dangereuse. On le voit, Nicolas, la régionalisation de cette guerre civile utilise l'alibi religieux à des fins politiques. Parce que là encore, les États-Unis planqués derrière l'Arabie Saoudite face à l'Iran, on ne peut pas s'empêcher de penser aux négociations sur le nucléaire. La régionalisation de cette guerre civile et surtout l'alibi religieux est aussi utilisée en interne, dans les territoires du Yémen, comme l'explique Franck Mermier, auteur de Yémen, le tournant révolutionnaire et chercheur au CNRS.
On peut avoir une interprétation tout à fait confessionnelle du conflit en disant que c'est les sunnites contre les chiites. C'est pas aussi simple.
Plus politique que religieux, en fait.
Tout à fait. C'est-à-dire que dans le contexte du Yémen et d'une nouvelle division administrative, politique du Yémen, de finalement contrôler un territoire. Hein, avant tout, en mettant certes en avant une identité, mais d'abord c'est un contrôle politique. Et d'ailleurs, c'est très intéressant à voir que ce mouvement houthiste qui se dit donc Zaydite, qui se réclame finalement de cette branche du chiisme, a pour principal allié aujourd'hui des dirigeants du mouvement sidiste, qui sont eux pas du tout zaydites, qui sont sunnites, qui sont installés au sud. Donc on voit bien là que dans ces alliances politiques, le facteur confessionnel est extrêmement réduit.
Et cette confusion a un dernier impact, Nicolas, non négligeable. Elle renforce les djihadistes d'Al-Qaïda dans la péninsule arabique et de l'organisation l'État islamique, très implantée dans les villages sunnites. Vous voyez, la situation est très confuse, très complexe, et c'est pas toujours facile de rassembler toutes ces nuances.
Merci en tout cas de l'avoir fait pour Un jour dans le monde et pour les auditeurs de France Inter, Éric Valmire. Il est 18h47, à suivre Dominique André en Chine, évidemment, et Arnaud Le Parmentier du côté de l'Iran. Train sur Inter, Indra Rios Moore. À suivre donc, comme promis, Dominique André et la Chine.
Un jour dans le monde, sur France Inter.
Bonsoir Dominique.
Bonsoir Nicolas.
Alors, la fabrique du Nouveau Monde avec un portrait de Li Chevalier, qui est une artiste chinoise. Elle a souffert pendant la révolution culturelle sous Mao. Elle mène un combat en faveur de la beauté, j'espère bien le dire, le Gaoya.
Bravo Nicolas. Li Chevalier est une artiste peintre qui partage sa vie entre Pékin, où elle est née en 1961, et Paris. Son enfance a frôlé la révolution culturelle entre 66 et 76. Petite, elle passait son temps à dessiner les personnages des huit seuls opéras autorisés par Mao Tse-tung. En 84, quelques années après l'ouverture de la Chine, Li est venue en France faire ses études. Mais avant les Beaux-Arts, elle est passée par Sciences Po Paris pour aiguiser son sens politique.
J'ai vécu la fin de la révolution culturelle, donc c'était le drame quotidien et complet. J'ai vu mes maîtresses de l'école monter dans les tribunes populaires comme ça le matin avec le grand chapeau blanc sur la tête. Il y a une chose que je m'appelle très très bien quand j'étais à l'école, je disais à une copine, je suis intéressée par la musique. Et cette copine me disait, mais tu n'as pas le droit de dire tu es intéressée par quelque chose. C'est le parti qui va te dire ce que tu vas faire dans le futur. Ce n'est pas toi qui vas décider. Donc il y a une suppression totale, je dirais, de la sensibilité, du désir, de la richesse, donc au profit d'un grand projet idéologique. Donc en 84, quand je suis arrivée en France, j'ai une obsession, c'est de comprendre le pourquoi. Pourquoi dans certains pays, cette violation de tout ce qui doit appartenir à un être humain en chair et en sang. Donc avec ce point d'interrogation, je me suis précipitée à Sciences Po pour savoir comment fonctionne une démocratie, légitimité d'un régime politique, quel droit finalement.
Parcours atypique, hein, Dominique, pour une artiste.
Oui, parce que Li a pris ensuite des cours de philosophie politique à la Sorbonne où elle a décroché un DEA. Alors, une fois qu'elle a étanché sa soif intellectuelle, Li s'est recentrée sur l'art, son obsession depuis qu'elle est jeune, et surtout sur la relation entre l'art et la beauté attaquée par Mao Tse-tung. Elle milite pour la renaissance en Chine, la renaissance du beau, ce fameux Gaoya.
Mao s'en prenait aussi à la beauté. Il a fini finalement par vraiment à détruire le goût. Traditionnellement, dans la langue chinoise, nous avons la combinaison de deux vocabulaires. C'est Gao et Ya. Gao, ça veut dire élevé. Gao est combiné avec la sobriété. Ya, c'est un vocabulaire pour décrire quelque chose d'extrêmement sensible, beau, nuancé. Voilà, c'est la beauté. Une autre combinaison, c'est le yen, su. Yen, ça veut dire très, très coloré, criarde presque, kitsch. Su, ça veut dire vulgaire et populaire. Cette combinaison n'est pas tellement neutre. Là, je vais vous citer un exemple typique pour la fête de printemps. Chaque année, le gouvernement organise un grand spectacle. Pour moi, c'est l'expérience même de la douleur, c'est-à-dire la perte totale de la sensibilité esthétique, parce que c'est yen su de début jusqu'à la fin. On sent tout simplement l'absence de goût qui existait pourtant, je dirais, avant cette période de révolution culturelle.
Voilà, et ça ne s'arrête pas là, Nicolas, puisque Li Chevalier fait partie maintenant d'un nouveau courant artistique en Chine, bien loin de la peinture traditionnelle. Vous savez, c'est une peinture de tigre et de bambou qui coûte très cher d'ailleurs. Et elle ne s'inspire pas non plus du pop art à l'américaine, cette peinture aussi hyper chère. Elle fait partie d'une troisième voie créative, très sensible, digne de ce Gaoya que Mao a voulu tuer.
Malheureusement, bon, sur le plan marché, ce nouveau courant artistique rencontre quelques difficultés parce qu'il n'est pas situé sur le plan d'art contemporain, qui est très promu par les marchands d'art en Occident, surtout dans les pays anglo-saxons, parce qu'il y a une très forte connotation politique. C'est figuratif, c'est très fort, il y a un choc visuel très très fort. Il n'est pas non plus soutenu par le marché domestique traditionnel, qui est entièrement coupé du monde. Donc l'encre expérimentale, qui est ce troisième mois, il est situé dans ni l'un ni dans l'autre. Pour le moment, je fais tout ce que je peux pour promouvoir ce courant qui me paraît un nouveau espoir de la Chine.
Voilà, une peinture qui a aussi un sens politique, on l'a bien compris. Donc, Li Chevalier a exposé l'an dernier à Bordeaux. Cet été, ce sera à Londres. C'est moins loin que Pékin, Nicolas.
Pour aller effectivement voir ses œuvres. Merci beaucoup, Dominique André. 18h54.
Dans le monde.
Alors, la Chine, c'est fini. Ah bon, vous voyez, la chronique est très socialiste. C'est incompréhensible. Vous voilà informé par le monde, Nicolas.
Sur France Inter.
Arnaud Leparmentier. Bonsoir, Arnaud.
Bonsoir, Nicolas.
Vous nous parlez de l'Iran ce soir.
l'histoire.
Oui, vous êtes cultivé, Nicolas.
Pas assez.
Mais vous avez la nostalgie de l'Empire perse, vous avez appris ça à l'école et vous vous demandez comment les Iraniens ont pu se fourvoyer en 1979 en se mettant dans la main des mollahs. Vite un bon accord sur le nucléaire pour faire rentrer cette grande civilisation dans le concert des nations. C'est la petite musique que l'on entend actuellement, persophile et anti-arabe, pro-chiite et anti-sunnite. En réalité, cette situation inquiète tant les Iraniens ne cessent de marquer des points, trop sans doute. En Syrie d'abord, où ils sont alliés de Bachar el-Assad. Les combattants iraniens sont tellement présents qu'un des gardiens de la révolution à Téhéran a osé écrire, je cite, « Bachar el-Assad fait la guerre en Syrie comme notre adjoint ». En Irak ensuite, Téhéran combat avec les Occidentaux, les djihadistes sunnites de l'État islamique, mais Washington s'inquiète déjà d'une mainmise croissante de l'Iran sur l'Irak. Citation, est-ce que le gouvernement de l'Irak va rester désireux de maintenir un gouvernement qui fasse toute sa place aux sunnites? C'est la question qu'a posée le chef d'état-major américain Martin Dempsey devant le Sénat américain. En fait, en envahissant l'Irak de Saddam Hussein, George Bush l'a en fait donné aux chiites et donc aux Iraniens. Le troisième front, c'est l'Iran lui-même. L'administration Obama est pressée de conclure un accord avec le nucléaire sur l'Iran. La France, notamment Laurent Fabius, freine. Elle craint un accord trop mou. Un accord mou, c'est accepter qu'à terme, l'Iran devienne puissance nucléaire aux côtés du Pakistan et de la Russie voisine. Enfin, le quatrième front, c'est le Yémen. Les milices houthis des chiites proches de Téhéran ont fait tomber le régime pro-américain en place. Voici le contexte, celui d'un immense retournement de l'Alliance en faveur de l'Iran qui permettrait à ce pays de devenir la puissance dominante de la région en contrôlant dans l'ordre Téhéran naturellement, Damas, Beyrouth avec le Hezbollah, Bagdad et désormais le sud de la péninsule arabique. Demander aux Iraniens chiites de faire régner l'ordre dans le monde arabe, c'est un peu demander aux Russes d'organiser la cohabitation entre Français et Allemands au siècle passé. Alors, que va faire l'Occident ? La France ne veut pas d'un tel retournement d'alliance, ses ministres le disent, les alliés, ce sont les Saoudiens, les Émirats, les Égyptiens, les Jordaniens à qui nous vendons force, équipement militaire. La France n'est pas chiite, elle est sunnite. Les Américains, eux, sont divisés entre les Républicains, pro-israélien, hostile à toute réconciliation avec l'Iran, et Obama qui veut conclure un accord. Mais le président américain s'est empressé d'aller rassurer qui ? Les Saoudiens, leurs alliés historiques depuis la Deuxième Guerre mondiale. Ils y sont allés lorsque le roi Salman est monté sur le trône en janvier. Car l'Arabie, c'est le cœur du sujet, elle a peur, une peur bleue d'un grand retournement d'alliance, d'une montée en puissance de l'Iran. Elle a réagi, elle a déclenché une guerre du pétrole pour assécher les finances de l'Iran en ne réduisant pas sa production d'or noir. L'Arabie, surtout, a déclenché une guerre tout court. Cette nuit, contre les Houthis pro-iraniens du Yémen, 10 avions, 150 000 Saoudiens sont mobilisés avec l'appui d'une dizaine de pays, l'Égypte, le Soudan, la Jordanie et les Américains qui ne prennent pas part directement au combat. Nom de code, tempête décisif, objectif, rétablir le gouvernement légitime pro-américain et sécuriser l'espace aérien yéménite. Les Saoudiens, pour l'instant, bombardent, sont massés à la frontière, mais ils n'ont pas pénétré le sol yéménite. On le voit dans toute cette affaire, le retour des Iraniens n'est pas sans danger. Une nouvelle guerre est déclarée depuis cette nuit.
Merci Arnaud Le Parmentier pour cet autre éclairage sur le Yémen. On a eu un premier tout à l'heure avec Éric Valmire. Et bonsoir Hélène Jouan.
Bonsoir Nicolas.
Le téléphone sonne aujourd'hui à 19h20 sur quoi ?
Sur le deuxième tour des départementales qui aura donc lieu dimanche. Après un premier tour qui a plutôt déjoué les pronostics, eh bien que peut-il se passer au second ? Alors comment les électeurs, vous, vont entendre les consignes ou les non-consignes des états-majors politiques? Les nombreuses triangulaires vont-elles changer la donne? Vous savez qu'on en attendait beaucoup moins que cela, mais comme la mobilisation a été plus importante, et ben ça a fait monter le nombre de triangulaires. Est-ce que celles-ci vont plutôt favoriser la droite ou plutôt la gauche? Le FN peut-il gagner des départements? Bref, à quoi va ressembler cette nouvelle carte de France tripartite? Eh bien, j'attends vos questions au 01 45 24 7000 et sur les réseaux sociaux franceinter.fr. Facebook et sur Twitter avec le hashtag Telson.
Merci Hélène. Le journal sur France Inter dans un peu moins de deux minutes.